France Culture.
Bonsoir, Anouar Abou Aïché.
Bonsoir.
Quand nous nous sommes quittés à la fin du troisième épisode de votre À Voix Nue, vous nous parliez de votre colère qui avait explosé pendant la première guerre du Golfe. Vous vous sentiez, vous, palestinien, arabe, maltraité par les experts et les médias français. Vous vivez alors en France depuis une dizaine d'années, vous êtes docteur en droit, vous êtes un cadre actif de l'OLP qui défend une solution politique avec Israël. On est donc au début des années 90 et arrive un moment extrêmement important dans votre vie puisque vous fondez une famille.
Absolument, c'était avec un grand plaisir et je découvre une vie familiale très chaude, tendre, et c'est là où j'ai commencé à être responsable au niveau individuel. Je veux dire par là, avant que ma fille arrive dans ce monde, je savais jamais combien d'argent j'ai ou combien je dois à d'autres. Et dès que ma fille est arrivée, j'ai décidé de travailler pour gagner ma vie.
On va donner leur prénom. Votre épouse est française. Elle s'appelle Chantal. Je vais vous laisser donner les prénoms de vos enfants. C'est des prénoms qui ont tous les deux une signification très importante.
Ma fille s'appelle Hanan et ça veut dire tendresse. Quand je l'ai nommée, je pensais à la tendresse. Mais quelques mois après, j'ai constaté que mon premier amour, quand j'étais adolescent, elle s'appelait Hanan aussi. Donc ça venait aussi de l'intérieur. Mon fils, il s'appelle Jamal, et Jamal, ça veut dire beauté. Et ils sont, c'est vrai, Jamal est beau, Hanan est tendre, et tout va bien.
Vous dites que vous devez travailler pour gagner de l'argent. Vous allez devenir, le 1er février 92, chauffeur de taxi.
Absolument, c'était un jour mémorable pour moi, parce que c'était la première fois que je prenne mon taxi. Et les hasards ont fait, je loue le taxi à Bobigny. Je rentre chez moi à Arcueil pour reprendre ma respiration et bien me préparer. Et voilà que le téléphone sonne. Ma mère venait de mourir. Et mon frère qui m'appelait, il m'a dit juste je t'informe, on est très pressé. Parce qu'en fait, Hébron était sous couvre-feu. C'est-à-dire que c'est interdit de sortir de chez soi 24 heures sur 24. Et il neigeait à Hébron. Et il n'avait que 2 heures pour l'enterrer. Et effectivement, j'ai été averti très rapidement, et ils sont partis très rapidement. Elle a été enterrée pendant ces 2 heures de levée de couvre-feu. Parce que l'armée, là-bas, donne quelques heures par jour pour que les gens se ravitaillent et suivent leurs affaires.
Évidemment, vous n'avez pas pu assister aux obsèques de votre mère. À l'époque, ça fait déjà 18 ans que vous avez quitté la Palestine. Vous pensez à votre pays, vous pensez que vous pourrez y retourner ou vous avez fait une croix dessus?
Alors, à l'époque, et avant les accords d'Oslo, exactement avant les accords d'Oslo, vraiment, je croyais que jamais je remettrais le pied chez moi. J'étais tellement désespéré de ce qui s'est passé pendant cette période, que effectivement je croyais que ça y est, Hébron, je la reverrai plus. Voilà pourquoi quand il y a eu les accords d'Oslo, vraiment pendant des longues semaines, je ne croyais pas ni mes oreilles ni mes yeux. Je ne l'ai cru que quand j'ai eu des amis qui travaillaient au bureau de Rafat, qui étaient à Jéricho. Et je dis mais vraiment, à Jéricho, oui, à Jéricho, et un autre qui était à Gaza. Là j'y ai cru. Et tout de suite, j'ai décidé de rentrer.
On va rappeler ce que sont ces accords d'Oslo. C'est la reconnaissance de l'État d'Israël par l'OLP et c'est la reconnaissance de l'OLP par Israël comme représentant du peuple palestinien. Et ça se matérialise par une poignée de main que vous avez dû voir en direct à la télévision.
Oh, comme tout le monde, absolument. J'étais accroché à ma télévision et c'était très émouvant, très étonnant.
On a qui à l'écran ?
On a Bill Clinton qui rassemble Yasser Arafat et Rabin, et avec, à côté, il y avait Mahmoud Abbas aussi, et Shimon Peres. C'est une photo inoubliable, et j'étais rempli de joie, j'étais très content, je voyais mon retour à Hébron, et tout de suite, hein, j'ai commencé à me préparer pour rentrer à Hébron.
Et à ce moment-là, outre ce retour espéré à Hébron, est-ce que vous vous dites, ça y est, nous aurons notre État et nous aurons la paix?
J'ai cru totalement que le train de la paix est bien parti et que rien ne l'arrêtera. Et pendant de longues années, je croyais cela et je croyais que c'était un bon début. Rappelons que c'était la première fois que la communauté internationale, avec à sa tête toujours les États-Unis, ont reconnu l'existence du peuple palestinien. Et la reconnaissance, là ça me fait parler aussi de la reconnaissance de la Palestine par Macron.
On va préciser qu'on enregistre cette émission en septembre 2025 et qu'Emmanuel Macron a reconnu l'État de Palestine il y a quelques jours aux Nations Unies.
Oui, effectivement. Et donc la reconnaissance pour nous, c'est la reconnaissance de nos droits aussi. À savoir notre droit à l'autodétermination, à notre dignité, à notre terre, à exister comme un peuple comme les autres. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Et en plus, on était objet de massacre de la part d'Israël et parfois des États autour. Or là, je crois que cette reconnaissance nous protège un petit peu, pas totalement évidemment, mais ça devrait protéger le peuple palestinien, oui.
Est-ce que vous avez le sentiment à ce moment-là que ça valide aussi votre théorie qu'il fallait passer par un accord politique et que la lutte armée n'était pas efficace? Vous nous parliez dans le troisième épisode votre horreur de la guerre. Vous avez l'impression que on est dans ce que vous aviez imaginé?
Absolument, et on a bien remarqué. Vous savez, il y avait l'intifada entre 87 et 93, 6 ans, de souffrance pour le peuple palestinien, mais aussi de résilience, de soumoud, d'actes de résistance non violents, beaucoup d'actes de résistance non violents. Le plus violent d'action du peuple palestinien à l'époque, c'est le jet de pierre. On rentre, tout ça a disparu. Je veux dire, plus de jets de pierre, plus de grèves, plus de boycott, plus de désobéissance civile. Et donc, oui, c'était un très bon début. Hein. On voyait, tout le monde était content, beaucoup d'Israéliens aussi. Et on a commencé à avoir des Israéliens en Israël. Beaucoup de monde était content.
Donc vous êtes rentré en Palestine.
Oui.
Vous faites ce choix de partir avec votre épouse française et vos deux enfants qui sont très jeunes à Hébron. À quelle date ?
Alors, on est rentré tout de suite, fin 94. Hein, et encore, mon premier retour correspondait à mon idéologie politique. Je suis parti avec la Fédération française des handicapés et l'objectif était d'aller à Eilat faire
Eilat en Israël.
Oui, Eilat en Israël pour faire une activité sportive à trois, à savoir la Fédération palestinienne des handicapés, la Fédération française des handicapés et la Fédération israélienne. Et on a été reçus à Eilat. Ça n'a pas bien marché. Mais c'était un début. Et après, je suis allé à Hébron. Et là, j'étais vraiment très, 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 très touché. Parce qu'il y avait des scouts d'Hébron qui m'attendaient à la porte de chez mes parents. C'était un accueil populaire, très émouvant, enfin, c'est parce que c'est vrai que quand j'étais en France, j'étais tout le temps en contact avec la population locale. Il n'y avait pas un jour où j'avais pas affaire à quelqu'un de territoire occupé. Et particulièrement d'Hébron, parce qu'on se connaît bien.
Quand vous vous installez donc à Hébron avec votre famille, vous découvrez une ville qui a quand même beaucoup changé depuis les années 70.
Écoutez, j'arrive dans une ville qui était très vive, notamment je parle de la vieille ville, 100 km carrés, très ancien. Quand j'ai été banni en 74, il y avait presque 50 000 habitants. Je rentre, je trouve qu'il n'y a même pas un millier d'habitants. Ça a été vidé par l'occupation. Et il y avait encore le tourniquet autour. Parce que l'armée d'occupation militaire ou coloniale a installé des tourniquets autour des entrées de la ville. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui rentrait chez lui, il a été humilié par les soldats et les colons. Et donc les colons étaient bien installés à l'intérieur de la ville. C'était pas la même, c'était une ville presque morte. Hein.
Inversement, la ville moderne, elle a grandi. Elle est beaucoup plus peuplée.
Absolument. Et ça s'est accéléré d'une manière incroyable. Après les accords d'Oslo, je crois que le mouvement de construction des habitats et des bâtiments étaient vraiment très accélérés. Alors, pour donner une idée, Hébron, il y a 80 ans, c'était 1 km². Quand je suis rentré à Hébron, donc au moment d'Oslo, c'était environ 30 km². Et pendant que j'étais au conseil municipal, elle est devenue 50 kilomètres carrés. Et au deuxième mandat au conseil municipal, Hébron est maintenant de 50 kilomètres carrés plus 20. Alors 20 kilomètres carrés. Le 20 kilomètres carrés, c'est le gouvernement qui en a fait cadeau à la mairie d'Hébron. Mais c'est un cadeau empoisonné, parce que on peut rien faire. C'était dans la zone C.
On va expliquer ce que c'est la zone C.
La zone C, c'est une zone où tous les pouvoirs, absolument tous les pouvoirs, sont aux mains de l'armée militaire coloniale. Et donc, on n'y peut rien faire. Et j'ai envie de donner, comme ça, une information aussi qui peut donner une idée sur les souffrances des habitants d'Hébron. En 1967, on avait 5 terrains de football. Alors, maintenant, et depuis les années 80, il n'y a qu'un seul stade de football. En 1967, il y avait 50 000 habitants qui disposaient de 5 terrains de football. Actuellement, on est 250 000 habitants et on ne dispose que d'un seul stade de football. Et une des priorités de la mairie, justement, c'est d'essayer de construire un stade quelque part. Ah ben, dans les 20 kilomètres carrés, dans cette zone, on peut faire même plusieurs stades, mais ça nous est interdit par l'occupation.
Très vite, une fois bien réinstallé à Hébron, avec votre épouse Chantal, vous créez l'association d'échange culturel Hébron France. C'est une association d'éducation populaire, de soutien social.
Alors, à l'origine, c'était vraiment l'idée d'une association d'échange culturel, comme son nom le dit. On voulait faire des expositions, enseigner le français, faire une bibliothèque et tout ça. Et c'est ce qu'on a commencé à faire au début. Mais, très vite, parce qu'on s'est installé dans la vieille ville sous occupation, pas loin des colonies, avec au milieu d'une population très opprimée et très pauvre financièrement. Et donc très vite, on s'est rendu compte que les habitants de la vieille ville avaient beaucoup de problèmes économiques et sociaux. Et c'est là qu'on a appris qu'on peut pas parler culture comme ça à des gens qui sont dans la dèche, dans des difficultés, dans des couvre-feux, dans des interdictions, derrière des barrages et des fermetures. Et effectivement, on a commencé à faire des activités sociales. On a embauché vite fait deux assistantes sociales. Et ça nous a aidé justement à pratiquer des activités culturelles, purement culturelles, mais liées. Par exemple, je donne un exemple, quand on donne des cours de soutien scolaire aux élèves, au début, on voulait le faire uniquement avec les élèves. Mais très vite, on a commencé à travailler avec les maires aussi. Les maires qui ont commencé à nous demander des cours d'hébreu, une initiation à l'ordinateur. Donc, on travaille plus chaleureusement avec les habitants et en même temps avec les enfants et leur famille. Une des activités que j'ai adorées, les pères dans la vieille ville, les pères des familles, jamais ils n'ont lu des livres pour leurs enfants. Eh ben, on a réussi à faire venir les pères pour lire des histoires à leurs enfants à l'association. Et avec beaucoup d'animation. Oui, maintenant, on a plus que 120 enfants qui viennent au moins 3 fois par semaine. Et très souvent avec leurs mères qui sont des maîtresses de maison qui ne travaillent pas et qui trouvent dans cet espace de l'association un bol d'oxygène pour se retrouver, pour faire autre chose que faire la cuisine et le nettoyage à la maison. Et c'est vrai que maintenant on devient un centre dans la vieille ville, beaucoup social, mais aussi beaucoup culturel. Et pour les activités d'enseignement de français et le plus intellectuel, on a un autre local en face de l'université et on est assimilé. Un centre culturel français à l'époque, et on a toujours eu des relations normalement très fortes avec l'Institut français à Jérusalem et le consulat de France à Jérusalem aussi.
Et comme si ça ne suffisait pas, vous êtes donc conseiller municipal d'Hébron, père de famille, participez beaucoup à cette association. Vous allez aussi devenir professeur de droit à l'université Al-Quds. Al-Quds, ça veut dire Jérusalem en arabe. Oui. C'est l'université palestinienne de Jérusalem. Donc le docteur en droit Abou Aïché devient professeur. Comment ça se passe?
D'abord, c'était la seule et la première faculté de droit dans le territoire palestinien. Et deuxièmement, il n'y avait pas beaucoup de professeurs en présence là-bas. Et je connaissais le doyen et je connaissais ce milieu. Donc j'y vais, hein. On ne peut pas demander mieux. Mais il est vrai qu'au début, je me suis rendu compte que j'avais oublié tout ce qui est droit. Vraiment, j'ai commencé à préparer mes cours follement, mais je dis vraiment follement, hein, parce que c'est pas facile quand vous êtes face à vos étudiants et qu'ils voient que vous êtes vide, quoi. Et c'est vrai que la première année, je dormais vraiment peu pour préparer mes cours. Et j'ai été aidé, moi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bibliothèques riches en livres en Palestine. J'ai été aidé par le fait que je préparais mes cours à travers les livres de droit français. Ah oui, c'est bon, en droit civil, c'est pas un problème, hein, parce qu'on a presque le même droit civil. Hein. Et la première année, c'était dur, dur, dur. La deuxième, beaucoup moins. Puis après, bon, je crois que j'étais à l'aise. Et quel plaisir d'enseigner. La première année, c'était pas vraiment un plaisir, c'était de souffrance. Mais après, c'est vraiment un grand plaisir et je prétends que j'étais toujours très fraternel avec mes étudiantes et mes étudiants. Et ça allait, j'ai adoré. Et maintenant, de nos jours, mon plus grand plaisir, c'est de retrouver mes ex-étudiants qui ont réussi. J'en ai retrouvé même ici à Paris, à la délégation de l'OLP. Et quand je vois que mes ex-étudiants ont réussi, c'est un plaisir, j'adore.
Cette université Al-Quds, elle est à Jérusalem-Est, c'est-à-dire la partie annexée de la ville par Israël. Mais vous croisez des Israéliens, vous croisez des universitaires israéliens, et ça vous permet de multiplier ces échanges avec des personnalités israéliennes.
Absolument, oui. Et je crois qu'à l'époque, encore une fois, hein, il y a beaucoup de monde qui croit. Et je me souviens qu'un jour, j'ai été invité par Claude Klein, qui était le professeur de droit constitutionnel à l'Université Hébreu de Jérusalem. Et j'ai passé plusieurs heures avec lui, il m'a fait visiter. Et on a regardé même les notes des étudiants, il m'a expliqué comment ils sélectionnent leurs étudiants. Et enfin, on s'est rencontrés nos expériences. Et c'était très bien, j'ai découvert l'Université Hébreu de Jérusalem. Et je crois qu'il y avait vraiment beaucoup de contacts entre les gens de l'OLP qui rentraient et des Israéliens. Mais très vite aussi, c'était parallèle. On voyait l'agressivité des colons contre l'initiative des accords d'Oslo, contre les Palestiniens en général. Moi, j'ai vu sur la route des colons qui ont failli me frapper et qui ont dit « Rabin, Rabin ». Bon, et ils ont fini par le tuer, hein.
Rabin est assassiné par un extrémiste israélien juif.
Un colon.
Simultanément, quelques mois avant, un colon extrémiste a massacré des fidèles à la mosquée d'Hébron.
Quelques années avant.
Oui. Le Hamas commet des attentats suicides à Jérusalem et à Tel Aviv. Le processus de paix, il est quand même très fragile.
Très fragile. Pourtant, c'était très bien construit, cette initiative, au point où on s'est donné 5 ans de dialogue et de négociation. Il y a 5 sujets sur lesquels les Palestiniens et les Israéliens n'arrivaient pas à se mettre d'accord, entre autres le statut de Jérusalem-Est, l'eau, la frontière, et le droit de retour et tout ça. Et donc, à l'époque, les négociateurs ont dit, bon, on va se donner le temps. On commence doucement. On a commencé par Jéricho et Gaza. Et après, on va continuer. Et ben, pendant les 5 ans, on était censé avoir notre État en 1999. Alors, pendant les 5 ans, les mêmes fonctionnaires qui travaillaient à l'administration civile de l'armée militaire coloniale sont restés là, sont devenus des fonctionnaires de l'autorité palestinienne. Et on était censé continuer le dialogue. Mais à chaque fois, ça a été annulé. Enfin bon, ça s'est arrêté. À cause des gens que j'appelle les ennemis de la paix. Et en tête, les colons, et après, c'est le gouvernement de droite aussi.
Netanyahou, déjà à l'époque.
Oui, absolument. Et Et donc, tout s'est arrêté et on n'a pas avancé.
Et dans le cadre de cette construction d'un État palestinien, d'un futur État palestinien, vous allez participer, à partir de 1998, à la rédaction du Code civil palestinien.
Ah oui, c'était à la fois un plaisir et un honneur aussi, j'en suis senti honoré. On était 8, 4 de Gaza et 4 de Cisjordanie. On se réunissait un week-end sur deux, une fois à Gaza et une fois en Cisjordanie. Et alors là, je vais vous faire rire encore. On a fini le travail le jour de début de la deuxième intifada. C'était un vendredi. Je rentrais en voiture de Gaza en Cisjordanie et c'est à la radio israélienne que j'ai entendu dire que l'intifada s'est déclenchée. Et comme c'était le début de l'intifada, bah, ça y est, nous, on avait fini le travail. Alors, en 2010, Hamas a décidé de mettre en vigueur le code civil que nous avons fait, auquel j'ai participé.
À Gaza.
À Gaza, et il est en vigueur à Gaza. Alors que, en Cisjordanie, ce qui est en vigueur, c'est toujours le code civil ottoman de 1886. C'est quelle complexité juridique, hein.
Et vous êtes fier de ce travail accompli? Quelles étaient les grandes lignes de ce code civil palestinien?
Alors, les grandes lignes, c'est plutôt, quel était le conflit entre nous, le 8? C'était un conflit entre laïcité et religion.
C'était un conflit entre laïcité et religion.
Je me souviens, enfin bon, ça donne une idée. Je me souviens que le premier conflit que j'ai eu avec mes collègues, que j'adore, hein, ils sont tous adorables et on est vraiment frères et amis, hein. Ça se passait dans un très bon climat. Mais le premier conflit que j'ai eu, un de mes collègues, qui voulait interdire, non pas interdire, il voulait imposer que les prénoms soient arabes. Alors là, je me suis levé et j'ai protesté. C'était vraiment très houleux notre débat. Je me souviens que je suis monté sur la table et j'ai dit, voilà, enfin bon, c'était très fort. Et finalement, quel était le compromis? Je me souviens plus de compromis, mais on a eu un compromis.
Vous avez trouvé un compromis.
On a eu un compromis, oui.
Le code civil est établi, mais vous nous l'avez dit, l'intifada éclate. Cette marche vers un État indépendant est stoppée. On parlera de cette intifada et aussi de la guerre entre le Hamas et Israël dans le cinquième et dernier épisode d'À Voix Nue. Merci Anouar Abouaïché.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue avec Anouar Abouaïché, réalisation Franck Lilin, prise de son Hélène Langlois, chargé de programme Daphné Abgral. Une série de Frédéric Mettezo, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France. We'll be right back.